CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de « Bonjour chez vous ». Comme je vous ai dit en début de semaine, toute cette semaine, j'ai l'honneur de remplacer Yveline Lebeau en tant qu'animatrice. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Détrompe-toi, ta sanctification a un impact sur ta destinée. Amen. Bonjour à vous.
Bonjour Nadine.
Bonjour Nadine.
Vous allez bien?
Oui, super.
Et quoi Nadine, même? Ça va?
Ça va super bien, Frank.
Ça se passe bien.
Si vous ne le savez pas à la maison, Frank aime m'embêter. Il aime ça. Il trouve... Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Même le soir, il m'envoie des textos juste pour m'embêter.
Oui, c'est vrai. Je fais le soir. Si vous voulez juste dire « Nadine, on t'aime », vous pouvez le faire dans les commentaires, ça va être chaud au cœur.
Ouais, merci beaucoup et je vous aime aussi. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet important, de la sanctification et de son impact sur notre destinée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ouais, qui ne se rendent pas compte, qui veulent aller plus loin, qui ont des plans et des projets. Et des fois, c'est juste la sanctification, le manque de sanctification, le manque de consécration qui peut vraiment être un frein sur leur propulsion, justement. On va en parler et en deuxième partie d'émission, on aura un flashback avec toi, Frank.
Oui, flashback de Charles Finney. La deuxième partie, on a fait la première partie, on s'est concentré sur sa conversion, ce qu'il a vécu, le baptême du Saint-Esprit. Mais là, on va couvrir 40 ans et plus en 10 minutes.
Oh.
Le ministère et la partie du ministère de sa vie. Ça va être, par la grâce de Dieu, très bon.
Ça va être très bon. Amen. Et je l'avais dit même ce matin que je trouve que quand tu fais les flashbacks, c'est tellement bon. T'as une façon d'expliquer, wow, de parler qui est vraiment, vraiment super intéressant. Et je vous invite aussi à écouter le flashback,
la première partie.
L'émission s'appelle « Va au-delà de tes limites grâce au Saint-Esprit ». Et c'était vraiment puissant. T'as prié pour le baptême du Saint-Esprit parce que ça a été vraiment aussi quelque chose de très fort dans la vie de Charles Finney. Ouais. Donc, vous pouvez aller le voir sur le replay sur emcitv.com et le replay sera disponible. Alors, on va commencer d'abord avec toi, Aurélie, tout de suite dans la pensée du jour.
Quel rapport entre ma destinée et la sanctification? C'est ce qu'on va essayer d'établir aujourd'hui dans cette pensée du jour. Et avant d'aller plus loin, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à ce sujet de lire et de méditer tout le chapitre de Romains 6. Moi-même, c'est un chapitre que j'aime lire, c'est comme une boussole pour moi lorsque je sens que j'ai besoin de plus de consécration. Alors, la sanctification, c'est quoi? J'ai fait des petites recherches au niveau des définitions. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu, c'est être consacré, dévoué à Dieu. Ça signifie appartenir exclusivement à Dieu. Et en gros, quelqu'un de sanctifié, c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, en fait. C'est quelqu'un qui a décidé de se mettre corps et âme au service de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas plaisir au péché, c'est quelqu'un qui ne prend pas plaisir aux choses du monde, mais vraiment dont la vie est entièrement réservée à Dieu. La Bible nous dit dans Romains 6, au verset 16 justement, je vous ai parlé de Romains 6, je vais le lire, le verset 16 dans la version Parole vivante qui l'explique encore, qui détaille. La Bible dit « Vous savez très bien qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. » Donc, se mettre corps et âme au service, on a vu que la sanctification, c'est se mettre corps et âme au service de Dieu. La Bible dit que quand on se met corps et âme au service de quelqu'un, on est tenu d'obéir à cette personne et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de votre relation avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ou bien tu choisis de servir le péché, auquel cas tu rattaches directement ta destinée à la mort, ou alors tu choisis de servir Dieu, auquel cas tu rattaches directement ta destinée à la vie. Et ça, c'est un choix de chaque jour, en fait. Il y a des personnes qui pensent que Dieu va les empêcher de commettre des choses qu'ils veulent faire. Non, Dieu nous a donné vraiment le choix. Il a mis devant nous la vie ou la mort. C'est à chacun de choisir de dire, OK, pour aujourd'hui, je choisis la vie. Dans chaque décision que vous avez à prendre, quelle qu'elle soit, il y a un choix que vous devez faire. Et soit ce sera le choix de la vie, soit ce sera le choix de la mort. quand vous mettez, quand vous choisissez la mort, c'est-à-dire ne pas marcher dans la sanctification, mais là, en fait, vous ouvrez toute votre vie au règne de Satan, à son joug. Et là, vous lui donnez comme un droit légal pour agir dans votre vie. De la même manière, quand vous choisissez de marcher dans la sanctification, vous ouvrez toute votre vie au règne de Dieu. Et là, Dieu aussi a le droit légal d'entrer dans votre vie et de faire ce qu'il a prévu de faire. Donc aujourd'hui, je veux vous encourager, votre destinée dépend vraiment de à qui vous donnez le droit dans votre vie. Si vous donnez ce droit à Dieu en marchant dans la sanctification, mais Dieu pourra vraiment tout faire à travers vous. Devenez un partenaire de Dieu aujourd'hui en choisissant de vivre cette vie remplie, cette vie pleine. Et n'ayez pas peur, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est difficile de marcher dans la sanctification. Le Saint-Esprit est là pour diriger, pour aider. Et la Bible même nous dit que parce qu'on est mort et ressuscité avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, c'est possible de le faire. Associons-nous au Saint-Esprit. Et alors qu'on le fait, notre destinée tend vers la vie de Dieu, la vie en abondance.
Amen. Ah, elle est super ta pensée, Aurélie. Vraiment, c'est bénissant. C'est vraiment bénissant. Et j'aimais quand tu as dit, en fait, que c'est un choix, que c'est Dieu ne nous force pas, mais lorsque nous choisissons de marcher dans la sanctification, ben, c'est qu'on laisse, on donne le droit à Dieu d'agir. Et lorsqu'on choisit de marcher dans le péché, c'est qu'on donne un droit légal, en fait, à Satan, en fait. Et il nous vole. Et vraiment, il y a des personnes qui vont être carrément, leur destinée leur est volée parce que, justement, ils n'ont pas fait cette nuance-là.
Effectivement, il y a plusieurs personnes comme ça qui... je vais un peu insister sur le côté droit légal.
Voilà.
Parce que des gens se disent que, OK, mais si je marche avec Dieu aujourd'hui, mais ça veut dire qu'avec Dieu, tout, rien ne peut m'arriver. Mm-hmm. Et on se dit, non, Dieu est trop bon et tout, même si je commets des péchés et tout. Effectivement, Dieu est bon. Mais Dieu ne nous force pas, en fait. Mm-hmm. Vraiment, il y a, dans le jardin d'Éden, par exemple, Adam était avec Dieu. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il était dans la présence de Dieu, tout baignait, mais Dieu ne l'a pas forcé. Dieu n'est pas venu lui dire, arrête, ne prends pas le fruit de la... Pourtant, il était dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé l'être humain vraiment avec ce choix. Et chaque jour, dès l'instant où les situations se présentent, vraiment, les situations se présentent à chacun de nous chaque jour. Et devant chaque situation, on a vraiment cette liberté de dire, OK, je vais choisir la vie ou je vais choisir la mort. Quand, je ne sais pas, le péché vient, tu sais que ce n'est pas bien. La Bible dit qu'on a la conscience, hein, on a une conscience du péché. Tu sais que tu ne dois pas mentir, tu sais que tu ne dois pas aller avec cette fille ou avec cet homme. Tu le sais, mais alors que tu choisis de ne pas le faire, là, en fait, tu es en train de choisir d'ouvrir ta vie vraiment à Dieu parce que tu as obéi. Quand tu choisis de faire le contraire, pareil, tu ouvres en fait un espace à Satan. Et quand Satan vient, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va voler ta destinée, il va la détruire. Il y a des choses que tu vas perdre, mais ce n'est pas Dieu qui en est responsable. C'est ton choix, c'est ta décision que de t'ouvrir en fait pour soit à Dieu, soit à Satan.
Et ce que tu es en train de dire me rappelle la citation d'aujourd'hui qu'on va vous regarder tout de suite de John Charles Ryle qui dit que si vous et le péché êtes amis, vous et Dieu n'êtes pas encore réconciliés. Et c'est tellement vrai, c'est exactement ce que tu es en train de dire.
Il y a des conséquences, en fait, à vivre une vie volontairement dans le péché. Et les conséquences, ben, peu importe à quel niveau est-ce qu'ils vont être, il y a des conséquences qui vont suivre des gens toute leur vie, il y en a d'autres que pas. Mais, comme Aurélie t'a dit, on veut mettre l'emphase aujourd'hui sur notre position, notre décision de résister au péché et des tentations que le diable va vouloir apporter dans notre vie et le fait de dire non, je vais résister. En fait, quand la parole dit, et on le dit déjà, et on doit le marteler parce que les gens ne comprennent pas la sanctification, pour beaucoup de personnes, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est comme un travail désagréable. Ils se disent, mais je dois me sanctifier. Mais quand la parole dit que le Dieu lui-même vous sanctifie tout entier, que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, irréprochables, bon, et que ça continue. En fait, Dieu met à la lumière des choses. Dieu nous démontre. Et le jour qu'on est de nouveau, le jour, vous le savez, le jour qu'on est de nouveau, soudainement, il y a des choses qu'on croyait qui étaient bien et normales. Et là, on les voit automatiquement. Notre perspective change. Et ça fait partie de la nouvelle naissance. C'est surnaturel. Surnaturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas exprimer, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est dur de comprendre. Mais c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. C'est le fait que nos yeux s'ouvrent à ce qui est mal. Et là, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire cette chose et qu'on va tout va être facile et beau. Il va y avoir des tentations. Et lorsque la tentation va venir, on va devoir résister autant dans nos pensées que dans nos actions, que dans nos paroles, résister à dire non, cette chose-là, faire ça, ça ne m'appartient plus.
Effectivement.
Et là, je prends position.
Et Frank, par rapport à ce que tu dis, j'encourage aussi les personnes parce que quelquefois, on pense que c'est dans le faire qu'on va trouver, qu'on va réussir à être sanctifié.
Voilà.
Dans le sens qu'il y a des personnes, effectivement, qui se disent, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Mais elles retombent, en fait, parce qu'elles n'ont pas compris qui elles sont. Elles ont juste admis que, OK, je ne dois plus faire. Mais elles n'ont pas compris leur position en Christ. Et quand tu comprends ta position en Christ, mais c'est parce que tu es en fait enfant de Dieu que naturellement tu vas te détourner de certaines choses. Mm-hmm. C'est parce que moi je suis une femme qu'il y a des choses de garçon qui ne m'intéressent pas du tout. Mm-hmm. De la même manière, quand tu es enfant de Dieu, mais le péché ne t'intéresse pas en fait. Mm-hmm. Tu ne veux pas pécher si tu n'es pas dans un peu de ci, un peu de ça. Ça peut arriver que tu tombes, ça peut arriver que quelque chose se passe, mais tu te ressaisis. Tu ne vas pas vivre une vie où tous les jours tu es dans le péché. Donc c'est important de savoir qu'on a une position et c'est aussi important de savoir que le Saint-Esprit, comme la Bible dit, il est le garant de notre héritage. Donc il est le garant de cette position en Christ, en fait, qu'on a reçue. Donc quand tu décides de t'associer au Saint-Esprit, et vraiment, je veux vraiment encourager les gens dans ce sens, parce que moi j'ai remarqué que dans ma propre vie, rien que parce que j'ai décidé de connecter à Dieu, de tourner mon regard vers lui, de prier, il y a des choses qui quittent tout seul. Mm-hmm. Tu ne fais même pas d'effort. La sanctification, c'est comme elle est nourrie par la relation que tu entretiens avec Dieu de façon permanente. Mm-hmm. Et juste parce que tu tournes tes regards vers lui, comme la Bible dit, il te transforme. Mais si tu étais juste, ah oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais chaque fois tu vas tomber et puis tu vas te décourager et le péché peut devenir naturel dans ta vie. Mm-hmm. Mais quand on choisit de tourner le regard vers Dieu, Dieu nous transforme vraiment. C'est ce partenariat avec le Saint-Esprit qu'on fait. Et alors qu'on est transformé ainsi, notre vie est transformée. Tous les jours sont transformés. Notre destinée est transformée.
Ouais.
Et c'est comme ça que notre vie est différente d'une autre vie.
Ouais, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 3 et le verset 1 de mémoire que ça dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas ici sur terre. » Et là, la responsabilité est clairement donnée. Mm-hmm. Affectionnez-vous, c'est-à-dire toi, choisis de t'affectionner aux choses célestes, spirituelles, qui sont à un autre niveau que ceux qui sont sur la terre. Les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu s'affectionnent aux choses terrestres, naturelles, matérielles, temporaires, le péché, les jouissances temporaires qu'il va y avoir. Mais toi qui as une intelligence renouvelée, transformée par la parole de Dieu, toi qui as Dieu lui-même en toi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Et comme te dit Aurélie, c'est clairement ça. C'est que, en fait, le plus que tu te rapproches de Dieu, naturellement, tu as un dégoût pour ces choses. Mm-hmm. Les gens vont penser qu'à force de prier, délivre-moi. C'est pas comme ça, en fait. Mm-hmm. Et ça se fait naturellement. Et tu vas être surpris ou surprise de te rendre compte que tu vas être au magasin, au restaurant, à l'école, peu importe où. Et là, soudainement, tu as quelqu'un qui te propose quelque chose.
Mm-hmm.
Et en toi, mais non, j'ai pas envie de faire ça.
Ouais, voilà,
en fait, c'est Dieu qui fait son œuvre, pas à force de prière uniquement, pas à force de par les œuvres. C'est quand on est ouvert à son action en nous.
Amen.
Et là, les choses, mais c'est fou de comprendre et de vivre la nouvelle naissance. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. Il n'y a rien comme ça sur toute la terre.
Et c'est vraiment, moi en fait, ce que je retiens de ce que vous êtes en train de partager, c'est ce choix en fait qu'on doit prendre. Et vraiment, ça aussi, c'est quelque chose de très important que les gens, des fois, ne comprennent pas. Comme tu dis, Aurélie, des fois, on est là et on pense qu'on subit et puis on pense qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment un choix à prendre. Et des fois, aujourd'hui, on court après la destinée, on court après s'accomplir, on court après faire des grandes choses. Mais commençons par le commencement, en fait, commençons par ce début de prendre le choix de marcher dans la sanctification. Et on va lire notre verset du jour dans Josué 3 au verset 5. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et vraiment, frères et sœurs, Dieu veut faire des prodiges au milieu de vous. Il veut faire des prodiges dans votre vie. Il veut faire des prodiges dans votre mariage, des prodiges pour votre destinée. Mais sanctifiez-vous. Comme Josué l'a dit au peuple, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Sanctifie-toi et Dieu fera des prodiges dans ta vie. Et on va continuer l'émission avec toi, Frank, dans la rubrique Flashback.
Eh oui, Charles Finney, partie numéro 2. Mm-hmm. Et comme j'ai dit, on a vu sa nouvelle naissance. En fait, et je veux juste rappeler très rapidement aux gens qui vont suivre cette émission, Charles Finney était un jeune homme qui faisait des études en droit. Il voulait devenir avocat. Il était un grand sceptique de la foi chrétienne parce qu'il allait à des églises, il allait à des réunions de prière pendant des mois de temps. Et en fait, je vais le dire comme ça, il se moquait des gens. À un moment donné, les gens ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Mais parce qu'il dit, mais parce que je vous entends prier semaine après semaine sans aucun exaucement. Et il dit, si votre Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne vous exauce pas? Et en fait, je l'avais expliqué la dernière fois, les gens croyaient dans la souveraineté extrême de Dieu et les gens ne priaient pas avec foi. Et voilà pourquoi ils ne voyaient pas d'exaucement. Mais Charles a vécu la nouvelle naissance, visitation de Jésus lui-même dans la pièce où est-ce qu'il était, jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais se met à parler en d'autres langues. Des gens viennent le visiter immédiatement après, sont visités, se mettent à rire dans l'esprit, à rire dans l'esprit, des gens très sérieux. Et là, ils riaient, et baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à vivre des manifestations de la puissance de Dieu. Et là, Charles commence à évoluer, à grandir dans sa relation avec Dieu. Et puis un jour, il avait continué ses études en droit. Et un homme qu'il était supposé défendre vient à son bureau et le matin même frappe à la porte et dit, « Monsieur Finney, vous ne m'avez certainement pas oublié, hein? Vous devez plaider ma cause aujourd'hui devant le juge. » Et là, Charles dit, « Monsieur, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas plaider votre cause, mais je vais plaider la cause de Christ et je dois commencer immédiatement. » Et là, il sort de son bureau, commence à témoigner. Des gens se tournent vers le Seigneur et ils commencent à voir des personnes touchées, des personnes, qu'est-ce qui se passe? Le même monsieur avec qui il a dit justement, je vais plaider la cause de Christ, ce même homme est allé plaider sa cause seul devant le juge et est par la suite rentré chez lui immédiatement, redonné, reconsacré sa vie au Seigneur. Il y avait la présence de Dieu et les gens ont dit, mais comment ça, ça peut se faire comme ça? C'est parce qu'il y avait déjà l'onction du Saint-Esprit qui se manifestait puissamment et fortement au travers de sa vie. Et donc, Charles commence le ministère. Et les gens en entendent parler parce qu'ils voient qu'il parle partout dans la ville. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Charles, il était le sceptique. En fait, c'était le style d'homme pour vous dire, à ce qu'il racontait de lui, que c'est-à-dire, si Charles croit en Dieu, ben, tout le monde va croire en Dieu. C'est pour dire à quel point qu'il était sceptique et, comme je dis, c'est-à-dire pas moqueur, mais en tout cas, il était vraiment... Et les gens entendent parler que Charles témoigne efficacement et voit des personnes donner au Seigneur. Et en fait, les gens de sa congrégation, où est-ce qu'il allait? Et ces gens qui priaient, qui ne voyaient pas d'exaucement, ils disent, mais tu dois venir nous en parler. Et Charles va à la réunion le soir, commence à témoigner. La puissance de Dieu se manifeste. Les gens, authentiquement, donnent leur vie au Seigneur, chose qu'ils n'avaient jamais fait. Même le pasteur de l'église, qui aimait Charles, a dit, il est allé derrière le pupitre, il a dit, frères et sœurs, je vous demande pardon pour mon incrédulité parce que j'ai même déjà confessé de ma bouche que jamais Charles Finney serait sauvé. Et en fait, là, il y a eu l'action du Saint-Esprit qui a commencé à se manifester. Charles a commencé à avoir une vie de prière intense et il a dit qu'au travers de sa vie de prière intense, il a vu de plus en plus qu'il priait, qu'il se rapprochait de Dieu. Il voyait une plus grande efficacité lorsqu'il parlait aux athées. Lorsqu'il parlait aux calvinistes de cette époque-là, c'était une doctrine très, très forte, la souveraineté extrême de Dieu. Et en fait, il parlait avec eux, je ne veux pas dire débat, mais il leur parlait. Et tout de suite, les murailles et les forteresses que les gens avaient construites étaient démolies. Les gens se donnaient au Seigneur parce qu'il y avait l'onction de Dieu qui était là et qui l'accompagnait. Et donc là, Charles poursuit son ministère. Je dois aller vite, comme je dis, il y a 40 ans à couvrir. Il rencontre un homme qui s'appelle Daniel Nash. Daniel Nash, c'était un homme... qui avait eu une maladie aux yeux et qui l'avait dû s'enfermer dans une pièce sombre, noire, pendant un long moment de temps. Et enfin, il ne pouvait pas lire, ne pouvait pas parler avec des gens, ne pouvait pas aller à l'extérieur, était constamment dans le noir. Et cet homme était sauvé, aimait Dieu. Mais dans cette pièce noire, à cause de son affliction, il a commencé à prier et est devenu un homme d'intercession comme jamais Charles Finney a vu auparavant. Enfin, il est ressorti, il a été guéri, il est ressorti de cette pièce transformé en homme, un homme qui priait, comme la Bible dit, sans cesse. Il pouvait prier la journée, mais au complet. Il intercédait pour le salut des âmes. Et Charles avait dit, et en fait, Charles avait été impressionné par les prières du frère Nash. Et Charles lui-même était un homme de prière, hein? C'était pas à cinq minutes. Et il a dit, j'avais jamais vu ça. Des prières très puissantes et remplies de foi comme Charles n'avait jamais vu. Et en fait, ils ont développé une relation ensemble. Quand Charles allait dans une région, le frère Nash allait à l'avance, priait, intercédait 2, 3, 4, 5 semaines à l'avance. Il ne faisait que prier à longueur de journée. Il y en a qui se diraient, mais c'est long. Mais pour lui, c'était une grâce sur sa vie. C'était l'onction qui était sur celui, c'était son appel d'intercession. Mm-hmm. Et quand Charles arrivait, lui-même priait, ça l'explosait. L'atmosphère était, dès qu'il y avait une étincelle, la présence de Dieu se manifestait. Et Charles, évidemment, son appel premier, c'était celui d'évangéliste. Et comme on utilise le terme revivaliste, il arrivait à des endroits et les réveils se manifestaient. Mais ce n'était pas des réveils, c'était en fait, les gens étaient religieux, pas nés de nouveau. Il n'y avait pas de conversion, c'était de la religion, de la religiosité. Et en fait, il est arrivé en 1826 dans une ville en particulier où est-ce que le beau-frère de Charles était un des responsables d'une usine. Et les fruits de Charles étaient indéniables. Et le beau-frère de Charles a dit, tu dois venir parler à l'usine, aux employés, parce que ce que Dieu fait au travers de toi, c'est extraordinaire. Charles a dit, OK, on va aller dans une usine, on va parler du Seigneur aux gens. Et donc, il rentre dans l'usine et il marche. Et pendant qu'il marchait, il voit une femme qui a vu Charles au loin. Et Charles a remarqué qu'elle a commencé à trembler. Et en fait, elle était une machine et elle voyait Charles et elle essayait de réparer un fil, mais ses mains tremblaient. Et de plus en plus que Charles arrivait, de plus en plus qu'elle était agitée. Et Charles est arrivé à peu près à 2-3 mètres de elle, 8 ou 10 pieds. Et du moment qu'il est arrivé et qu'il l'a regardé en plein visage, la femme s'est écroulée.
Oh, wow.
Elle s'est mise à pleurer, elle a demandé pardon pour ses péchés et ça s'est répandu dans toute l'usine.
Il n'avait même pas parlé là.
Zéro. Juste là. Ça s'est répandu dans l'usine. Et le beau-frère de Charles, qui était un des responsables, a dit à tout le monde, « Arrêtez les machines! Il vaut mieux que nos âmes soient sauvées!
Alléluia.
Que cette usine continue de fonctionner! » Et Charles a prêché, et ça l'a éclaté dans la ville au complet. Et en fait, Charles a réalisé des vérités tellement profondes que tu peux juste réaliser, je crois, quand tu le vis. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand le réveil touche une région, ce n'est pas juste des cœurs qui sont transformés, comme il l'a dit, mais c'est des sociétés entières qui sont changées à tout niveau.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'ils voyaient dans les villes où est-ce qu'ils passaient, les sociétés étaient transformées. Les magasins fermaient plus tôt pour aller aux réunions le soir.
Mm, wow.
Les gens, les tavernes fermaient. Les personnes parlaient que de Dieu. Il y avait un réel et vrai réveil qui se manifestait. Il y a une autre histoire d'un shérif qui traversait une petite rivière, un shérif d'un comté, d'une ville. Et du moment où est-ce qu'il a traversé la rivière, et ça, c'est lui-même qui en a témoigné, Charles faisait des réunions de réveil dans un endroit. Il a traversé la rivière et il est arrivé sur le territoire de la ville et la puissance de Dieu sur son cheval est tombée sur lui. Du moment qu'il est rentré sur le territoire, il a senti la présence de Dieu.
Mm-hmm.
L'homme est allé à la réunion. Et en fait, tu vois comment que ça se répandait à travers des régions où est-ce qu'il était. C'était pas juste où est-ce que lui, il prêchait.
Mm-hmm.
Il croyait pas que, Charles ne croyait pas que les réveils étaient seulement des actes souverains de la part de Dieu, comme beaucoup le croyaient, mais il croyait que le réveil pouvait être provoqué par le jeûne, la prière, et en tenant Dieu responsable de ses promesses qu'il a faites dans sa parole. Il était passé par-dessus cette idée de « Dieu, s'il te plaît, si tu le veux, envoie un réveil, s'il te plaît. » Il a dit « Non, nous allons être porteurs du réveil. » Et en fait, c'est ce qu'il faisait quand il était dans des endroits, c'est par le jeûne, la prière. Et en fait, quand il priait, et ça c'est quand j'ai lu, ça m'a bouleversé. J'ai arrêté de lire quand je lisais chez moi. Ça m'a marqué. Une des phrases qu'il a dit, et il le dit lui-même dans son autobiographie, il a dit « Je pouvais prier des fois des phrases comme celle-ci. » Et il disait ça à Dieu. « J'espère que tu ne crois pas pouvoir me refuser cette requête et cette demande. Je viens vers toi avec tes promesses en main et je ne veux pas me faire refuser cette demande.
Wow. »
Mais t'imagines, c'est... Moi, tu vois, j'aurais pas pensé parler.
C'est clair.
Mais il nous sort de notre petite boîte, enfin.
Ouais.
Et Dieu, je crois que Dieu aime ça. C'est parce que Dieu, ce qu'il aime, c'est la foi.
Oui.
Et quand un homme est sincère et dit, « Seigneur, t'as pas le droit de me refuser cette promesse.
»
Wow, le cœur de Dieu, je suis sûr qu'il est touché. C'est comme Jésus.
Mm-hmm.
Quand cet homme a dit seulement une parole, Jésus fait, « Wow, lui, j'ai jamais vu une foi telle que lui.
Mm-hmm. »
Et là, on arrive au réveil le plus puissant de sa vie. C'est le réveil de Rochester à New York. C'est connu dans tout ce qu'on va lire de Charles Finney. Le réveil de Rochester à New York. Donc, Charles Finney, c'était dans les années 1820, 30, 40, 50, 60. Dans les années 1800, les États-Unis étaient en train de se coloniser plus vers l'ouest. Le nord-est était les endroits où c'était plus, il y avait une plus grande population, Philadelphie, Boston, New York, la Nouvelle-Angleterre.
Mm-hmm.
Et lui, c'était dans cette région-là qu'il a beaucoup œuvré. Et la ville de Rochester était une des villes qui grandissait le plus rapidement dans l'État de New York. Et en quelques mois de réveil, La ville de Rochester en elle-même avait, je crois, de mémoire, 25 000 habitants. Mais avec tous les environs, en l'espace d'à peu près un an, il y a eu 100 000 conversions. Wow. 85 % sont restés avec le Seigneur des années plus tard, c'est ce qui a pu être quantifié. Mm-hmm. Un des plus fervents critiques de Charles Finney, Lyman Beecher, avait dit lui-même par la suite. Au début, il critiquait Finney parce que Finney prêchait justement qu'il y avait un enfer, que si tu ne te convertissais pas, tu y allais y aller. Mm-hmm. Il faisait des appels au salut comme personne auparavant. Il disait « Avancez-vous, asseyez-vous sur ce banc si vous voulez recevoir le Seigneur maintenant. » Et c'était le style que s'il n'y avait personne qui se levait après avoir prêché, il disait « C'est clair, vous avez pris votre décision. Vous, ce soir, écoutez-moi bien, ce soir, vous vous êtes positionné contre le Fils de Dieu, vous avez refusé sa grâce, et c'est l'enfer qui vous entend si vous mourrez cette nuit. » Et là, il disait « Si j'ai encore la grâce de pouvoir vous prêcher demain, vous aurez une autre chance. » Et il partait.
Wow.
Les gens le critiquaient, mais il avait des conversions et l'onction de Dieu était là. Est-ce pas tout le monde de prêcher comme ça? Il y avait cette direction-là, il prêchait l'amour, la grâce de Dieu, mais il prêchait aussi le jugement à venir. Et en fait, dans cette ville de Rochester, les étudiants dans les écoles n'arrivaient même plus à se concentrer. Les professeurs ont fait venir Charles dans les classes. L'école en entier se convertissait. Les gens étaient pas capables. Ils étaient mal par rapport à leur âme vis-à-vis de Dieu. Ils se disaient, mais si je meurs, et c'était même pas parce que Charles avait prêché. Il y avait une simple conviction qui était là. Les gens, comme je dis, c'est ça, essayer de comprendre la conviction du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit, le Consolateur va venir, et c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait auprès des incroyants. C'est ce qu'il faisait dans des régions complètes. Et donc, le réveil de Rochester a fait exploser le deuxième grand réveil des États-Unis. Le premier avait été instauré, apporté par George Whitefield. J'avais fait un autre flashback sur lui dans le passé. Mais le réveil de Rochester a vraiment fait exploser ce deuxième grand réveil. Charles Finney est vraiment, il a l'étiquette du porteur du deuxième grand réveil des États-Unis. Si les États-Unis sont ce qu'elles sont aujourd'hui, il y a une grande partie qui est attribuée à lui. Et je crois que pour les États-Unis, il n'y a pas d'autre évangéliste qui peut être comparé à lui, excepté pour Billy Graham. C'est ce que les gens vont dire. Ça a été un homme de réveil, de puissance. Il a été pasteur par la suite, mais ça n'a pas duré longtemps. Il n'était pas capable de rester.
Non, c'est sûr.
Même quand il était à un endroit, il faisait des réunions pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines d'affilée. Tous les soirs, il prêchait sans cesse et ses églises grandissaient. Il construisait des nouveaux bâtiments dans les régions et après ça, il partait quelque part d'autre. Et en fait, sa vie a été comme ça. Il a eu plusieurs enfants et lui, pour sa part, sa première femme, ça a été un des moments difficiles de sa vie. Elle est décédée en 1847 et ça l'a bouleversé sa vie. Ça a été une difficulté qu'il a su remonter par la grâce de Dieu. Et lui, il a encore vécu pendant près de 30 ans après son décès. Et il a apporté vraiment le réveil partout dans les États-Unis. Et il a voyagé un petit peu outre-mer, mais ça a vraiment été son œuvre. C'est dans le nord-est des États-Unis, dans la région de New York. Il est mort le 16 août 1875, dans les 83 ans, je crois, approximativement. Il a été une bénédiction. Et vraiment, c'est Charles Finney, l'homme de réveil qui, je pourrais en dire tellement.
Oui. Déjà.
Donc, je une petite conclusion, Nadine, exprès.
Merci, Frank. Wow, tellement formidable et inspirant. Et vraiment, ça rejoint le thème qu'on a partagé aujourd'hui, que lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous cherchons Dieu, une destinée glorieuse nous est réservée. Merci beaucoup pour ce flashback. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Ta vie a de la valeur ». Nous aurons une rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec Yanis Gauthier et un invité, le docteur Paul Saba, qui viendra présenter son livre « Fait pour vivre ». Vous ne voulez pas manquer ça. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.